Europe 1, il est 6h.
J'ai recherché la plus belle des médailles, celle qui me manque, mais je vais la ramener.
Clarissa Agbenienou, quintuple championne du monde de judo et qui rêve d'or à Tokyo. La porte-drapeau de la délégation française suscite tous les espoirs. Elle a toutes ses chances et elle entre en lice ce matin. Nouvelle restriction en Haute-Corse où l'épidémie de Covid flambe. Le masque est de nouveau obligatoire en extérieur et les rassemblements limités sur les plages et les espaces naturels. La Tunisie s'enfonce dans la crise. Après avoir suspendu les travaux du Parlement pour un mois et démis son Premier ministre, le président Kais Saied a limogé hier le ministre de la Défense. Et puis 8 ans après Racine Carré, je vous le disais, Stromae fait son retour avec un nouvel album sorti prévu à l'automne. À suivre, le regard international de Jean-Sébastien Soldaini et l'or du Venezuela qui se joue à Londres. Et puis notre rendez-vous d'histoire avec David Castello-Lopez qui nous replonge tous les matins aux origines d'un objet du quotidien. Aujourd'hui, l'accessoire vintage pour vos souvenirs d'été, le Polaroid. Très bon réveil. Merci d'avoir choisi Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Votre premier journal du matin, c'est avec Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Théo, bonjour à tous. On l'appelle la Teddy Riner au féminin, le bulldozer ou encore la tigresse. Autant de surnoms qui en disent long sur Clarisse Agbenienou. La judokate française qui concourt dans la catégorie des moins de 63 kilos a réussi son entrée dans la compétition au JO de Tokyo. Julien Froment, elle est la grande favorite au titre olympique.
Effectivement, elle combat depuis 5 ans avec une obsession, l'or olympique. Seule médaille absente de son incroyable armoire à trophées. Clarisse Agbenienou, 28 ans, s'est préparée pour ça. La bulldozer règne sans partage sur sa catégorie des moins de 63 kilos, 5 fois championne du monde et d'Europe. Mais Clarisse Agbenienou est depuis quelques mois comme une lionne en cage. Elle a très mal vécu le report des Jeux Olympiques et a dû se reconstruire pour aborder ce nouveau rendez-vous. Celle qui est affectueusement surnommée Niu Niu a pris du temps pour elle. À la réunion auprès de ses proches pendant le confinement, elle a changé ses habitudes, un peu de yoga, de la boxe pour se libérer l'esprit. Et ça a payé avec un nouveau titre mondial en mai dernier. Il n'y a désormais mais plus de temps à perdre. La porte-drapeau de la délégation française qui a parfaitement réussi son entrée en lice, moins de 20 secondes sur le tatami pour son premier combat, donne rendez-vous en fin de matinée. Elle pourrait retrouver son bourreau de 2016, la Slovène Tina Tritenjak, qui l'a déjà battue deux fois en finale. Mais Clarisse Agbenienou, programmée pour la victoire finale, rien ni personne ne pourra la faire dévier de son objectif.
Et à ce stade, la France comptabilise 5 médailles, une en or, deux en argent et deux en bronze. On notera ce matin l'élimination en quart de finale du Français Michel Bourrez dans l'épreuve de surf.
C'est tous ensemble que nous vaincrons le virus. On continue à tweeter Emmanuel Macron hier alors que l'épidémie progresse.
Le nombre de nouvelles hospitalisations a presque doublé en une semaine. Le nombre de décès aussi. Les départements les plus touchés prennent donc les devants. En Haute-Corse, il est désormais interdit de se rassembler à plus de 10 sur la plage et dans les espaces naturels après 21h. Le masque fait aussi son retour aujourd'hui dans les zones les plus touristiques. C'était nécessaire pour le préfet de Haute-Corse, François Ravier.
Il s'agit évidemment d'endroits dont la population est multipliée entre 3 et 4, parfois 7 à 8, pendant la période touristique. D'où l'idée de prendre rapidement des mesures. La venue en Corse est liée à la détention d'un pass sanitaire. Donc, a priori, arrivent en Corse des personnes qui n'ont pas été infectées par le Covid. La population corse est effectivement, pour l'instant, proportionnellement la plus touchée, nettement plus, ce qui résulte d'événements festifs familiaux, les baptêmes, les mariages, bien entendu, les anniversaires. Là, c'est effectivement le risque de saturation du système hospitalier de la Haute-Corse, qui, on le sait, est déjà sous tension l'été. Les mesures sont en vigueur pour maximum 2 semaines, et au bout de chacune des semaines, on évalue l'évolution de la situation sanitaire. Est-ce qu'on est encore en phase d'accélération? Si oui, parmi les mesures possibles, ce serait la fermeture à minuit des restaurants et des bars et des établissements de plage.
Le préfet de Haute-Corse au micro européen de Johanna Chabas.
Et alors que le texte qui définit l'extension du pass sanitaire a été voté dans la nuit de dimanche à lundi, première conséquence, les pharmacies Emilides constatent un regain d'affluence pour des tests antigéniques.
En attendant d'être vaccinés ou parce qu'ils refusent de l'être, beaucoup ont besoin d'un résultat négatif de moins de 48 heures pour continuer à fréquenter certains lieux. À Strasbourg, Mélina Fachin pour Europe 1.
Le cabanon installé devant la pharmacie de la gare à Strasbourg ne désemplit pas. Il y a la queue toute la journée pour faire un test antigénique. Lisa, la pharmacienne.
Alors oui, depuis mercredi, l'entrée en vigueur du pass sanitaire, on a à peu près doublé le nombre de tests qu'on faisait par jour. On est sur une centaine de tests, ça occupe beaucoup nos journées.
Maxence, par exemple, qui n'est pas encore vacciné, a besoin d'un pass sanitaire pour accéder à sa salle de sport.
J'ai ma première dose aujourd'hui, ma seconde dose le 16 août. Et après, il faut attendre encore 7 jours pour avoir le pass sanitaire. En attendant, test antigénique, voilà. Et on fera avec.
Pour Akilas, au contraire, hors de question de se faire vacciner. Il est prêt, dit-il, à refaire autant de tests qu'il le faudra.
Je préfère faire un test antigénique. Ça me permet de préserver mon organisme qui n'a pas besoin de vaccin.
Vous êtes prêt à venir faire des tests très régulièrement ?
Toute la vie, peu importe le prix, même s'il faut le faire à 1000 euros par test, je le ferai.
Et même si cela signifie qu'il devra revenir ici à la pharmacie à chaque fois qu'il veut aller au restaurant ou au cinéma. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Et toujours à propos de la pandémie, cette douche froide pour les professionnels du tourisme aux États-Unis.
Des mois qu'il pressait Joe Biden de lever le travel ban, autrement dit les restrictions qui interdisent à la plupart des citoyens non américains de se rendre aux États-Unis depuis une grande partie de la France. Mais après plusieurs mois de discussion, la décision est tombée hier soir. Benoît Clerc, les frontières américaines restent fermées.
Oui, l'annonce de la réouverture des frontières que tout le monde espérait est une nouvelle fois reportée. Et c'est Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche, qui s'est chargée d'annoncer la mauvaise nouvelle.
Avec le variant Delta, nous allons maintenir les restrictions de voyage existant à ce jour. Le variant Delta se transmet très rapidement, ici comme ailleurs dans le monde. Le nombre de cas explose chez les personnes non vaccinées et va se multiplier dans les semaines qui viennent.
Cette décision est donc un coup dur pour tout le monde, mais le variant du virus est bien présent et il faut en tenir compte. D'un côté, on espérait voir revenir les touristes européens dans les grandes villes et les parcs naturels américains. Ainsi, plus de 2 millions de Français faisaient le voyage ici chaque année. De l'autre, les compagnies aériennes et des agences de voyage qui ont fait depuis des mois un lobbying pressant auprès de Washington, espérant transporter des millions d'Américains dans le monde entier. La douche est glacée pour tous ce matin, et ce d'autant plus qu'aucune date n'est envisagée pour une possible réouverture.
Toujours pas de touristes français, toujours pas de touristes européens aux États-Unis. Tout ça va évidemment avoir un coût économique considérable, Benoît.
Absolument, et nous allons l'évoquer dans un instant, mais il y a aussi un coût humain. Écoutez Patrick Caraco, il est le conseiller consulaire représentant des Français à Los Angeles.
L'administration Biden ne veut pas laisser rentrer les Européens en général, mais les Français en particulier. Donc c'est très pénalisant pour tout ce qui est tourisme. Toutes les familles attendent aussi une partie de leur famille qui devait les visiter cet été aux États-Unis. Et malheureusement, du point de vue économique, c'est assez grave parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont subir des déficits et qui ne vont peut-être pas s'en sortir. Et bien sûr, beaucoup de Français expatriés qui sont dans le tourisme. Et les compagnies d'aviation sont dans le même, si je puis dire, le même bateau.
Alors en termes économiques, au niveau mondial, les compagnies aériennes ont déjà perdu près de 100 milliards de dollars depuis le début de la pandémie. C'est trois fois plus que pendant la crise économique de 2008-2009. Près de 8 millions d'emplois sont directement liés au tourisme ici. Autant dire que la route va être longue pour revenir à une situation normale.
Benoît Clerc, correspondant Europe 1 aux États-Unis.
Europe 1 6h08, il y a tout juste un an, le deuxième et dernier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim dans le Haut-Rhin s'arrêtait, mettant 2000 emplois directs et indirects sur la sellette.
Signé en 2019, un projet de territoire prévoyait la reconversion économique de la zone. Où en est-on aujourd'hui ? Maud Descamps, vous êtes journaliste au service économie d'Europe 1, bonjour.
Bonjour.
Alors Maud, pour le moment, aucun emploi n'a été créé.
En effet, un an après, rien de concret. Un des projets phares de reconversion du territoire est une zone d'activité qui s'appelle Ecorena. Non seulement elle n'est pas encore sortie de terre, mais elle a été revue à la baisse. Au lieu de 220 hectares, elle n'en fera que 80, notamment pour des questions de préservation de l'environnement. A priori, l'État doit se prononcer d'ici la fin du mois d'août sur la faisabilité du projet. Ce n'est qu'ensuite que les appels d'offres seront lancés et donc rien ne sortira de terre avant 2023, ce qui inquiète évidemment les élus locaux puisque 2000 emplois sont en sursis actuellement. Et puis il y a aussi la perte financière liée aux impôts qu'EDF ne payera plus à partir de cette année puisque la centrale n'est plus exploitée.
Et justement, puisque vous parlez d'EDF, Maud, où est-ce qu'on en est du démantèlement de la centrale ?
Là, on peut dire que les choses avancent. 80% des salariés ont été réaffectés. Il y a encore un peu moins de 500 agents qui travaillent sur la zone, car il faut maintenant démonter la centrale, enlever le combustible, c'est-à-dire l'uranium, qui est dans le réacteur, qui sera ensuite amené en usine de retraitement à Lagues, dans la Manche. Et puis le démantèlement de la centrale, lui, ne démarrera qu'en 2025.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
6h10 sur Europe 1 à l'étranger, la Tunisie s'enfonce dans la crise des affrontements traitement ont éclaté hier devant le Parlement, dont les travaux ont été suspendus dimanche pour 30 jours par le président Kais Saied.
La France dit souhaiter un retour dans les meilleurs délais à un fonctionnement normal des institutions dans le pays. Washington appelle à ne pas dilapider les fragiles progrès diplomatiques, mais la tension monte dans le pays avec en toile de fond une crise sanitaire catastrophique due au Covid. Jean-Jacques Herry.
Le limogeage hier après-midi du ministre de la Défense est le dernier épisode de la reprise en main du président Saied sur la vie politique tunisienne. Face à lui, le parti Ennahda, majoritaire au Parlement, ne cesse désormais de dénoncer un coup d'État, ce qui a donné lieu hier à des affrontements à coups de jets de bouteilles et de jets de pierre devant le Parlement. La guerre politique entre le président et son gouvernement, qui dure maintenant depuis plusieurs mois, a tout grippé, regrette Larbi Chouika, politologue, avec en toile de fond une crise sociale et sanitaire qui a poussé la population dans la rue.
Ce qui s'est passé, c'était prévisible parce qu'on était dans une situation d'impasse. Le Covid a été le révélateur des dysfonctionnements, voire des paralysies des institutions étatiques. Je suis personnellement très inquiet. Est-ce qu'on ira vers un affrontement, vers une épreuve de force? Eh bien, je le redoute, je le crains beaucoup.
Les prochaines semaines s'annoncent donc indécises. Très clairement, depuis dimanche, la jeune démocratie tunisienne est à nouveau en partie plongée dans l'inconnu.
Jean-Jacques Herry pour Europe 1.
Et puis, on attendait son retour depuis bientôt 7 ans. Stromae va sortir un nouvel album, Émilie Dez, en novembre.
Stromae qui s'était fait très discret depuis 2016, 8 ans après la sortie de son album au succès planétaire, Racine Carrée. Il revient donc sur le devant de la scène, Angèle Châtelier.
Stromae, roi des tubes, avait vendu 3 millions d'exemplaires de son dernier album Racine Carrée, sorti en 2013.
J'étais formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Pendant 2 ans, ensuite, il avait enchaîné les dates de concert partout dans le monde. Plus de 200 dans un rythme effréné. Tellement qu'à cause du surmenage et suite à une grave réaction à un traitement contre le paludisme, Stromae avait tout quitté, souhaitant faire une pause d'au moins 2 à 4 ans, disait-il à l'époque. 6 ans après, Stromae semble être prêt à faire son comeback et devrait revenir dans quelques mois avec un 3e album, le sien. Lui qui, malgré tout ces dernières années, a tout de même collaboré avec d'autres artistes comme Big Flo et Oli ou Aurel San, avec qu'il a partagé en duo. Ce retour tant attendu de Stromae donne aussi des ailes aux maisons de disques. Selon Le Parisien, les deux plus grandes, Universal et Sony, sont dans la course. Une prime d'1 million d'euros serait dans la balance des négociations.
Alors on danse.
Angèle Châtelier pour Europe 1.
Dans le journal d'Émilie Dez. Merci Émilie, il est 6h13.